Je vous demande votre avis sur les données de santé qui sont à la RAMQ, vos données personnelles de santé qui pourraient être monétisées, vendues à des compagnies pharmaceutiques dans un but de recherche, bien sûr. Mais avant de vous donner la parole, je veux simplement vous donner une nouvelle importante parce que pour tous ceux qui ont eu des symptômes de COVID, vous savez, et pour toute personne qui voyage aussi, vous savez que normalement, il y a une période d'isolement là, pour les cas confirmés. C'était 14 jours. Ça vient maintenant de passer à 10 jours pour la majorité de la population. Je cite le communiqué. La levée de l'isolement est maintenant possible 10 jours après l'apparition des premiers symptômes ou, si la personne est asymptomatique, 10 jours après la date du test positif à la COVID-19. C'est Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, qui dit ça. Il dit au point où on en est, là, on peut maintenant raccourcir la durée de l'isolement pour les personnes atteintes de la COVID-19. Bon, on n'a pas d'autres informations en ce qui concerne, par exemple, les voyageurs. On aura l'occasion d'y revenir dans nos bulletins de nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée qu'on vende vos données de santé? Avec nous, on a M. Waterhouse. Comment va-t-il, Steve?
Bonjour, Isabelle.
Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Steve, on a discuté avec Éric Parent, nos auditeurs. Jusqu'à maintenant, les gens ont quand même des réticences. Quel est ton avis là-dessus, toi?
Les réticences sont bien fondées parce que oui, on s'est fait varloper, excuse de dire ça comme ça, mais avec tellement de fuites d'informations dans les deux dernières années. Puis il faut pas juste regarder juste dans le Québec aussi. Ceux qui ont résidé dans un MGM à Las Vegas, ben, leurs données ont été compromis là. Ceux qui ont résidé dans un Marriott, les données ont été compromis là. Fait que quand tu fais un tableau global, partout où il y a des données qui ont été compromises, ben c'est là qu'on en arrive à dire, t'as peu, là, on peut-tu retrouver le contrôle un peu de qu'est-ce qui nous reste de privé? Puis là, après ça, on apprend que le gouvernement, chez qui on a confiance, de qui garde nos informations personnelles privées, ben, qui s'adonnent à faire des deals sur le côté, puis on n'est pas informé. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Là. Éthiquement, là, il y a quelque chose qui est louche là-dedans, là, puis il faut adresser.
Il y a Jean, tu vois, qui m'écrit, les algorithmes sont capables de m'envoyer des pubs précises juste après que je sois allé sur tel ou tel site. Ils vont certainement être capables de nous identifier avec la même anonymisation des données. Est-ce qu'il a raison de penser ça?
Oui, parce que, sans dire le mot algorithme à travers de ça, mais c'est une réalité. Il y a des automatismes qui existent, qui vont être capables de faire du recoupement comme ça. Donc, une donnée complètement anonymisée, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le lieu, le nom, rien, juste la donnée pure, elle ne sert pas autant que quand il y a certaines informations, comme exemple, disait Eric, tantôt, des informations démographiques pour aider à comprendre dans quelle région puis de comment ça s'articule. Alors, de baser là-dessus, c'est relativement facile, les automatismes d'aujourd'hui, de recouper avec toutes les informations que j'ai citées qui ont fui dans l'univers d'Internet, et après ça, faire un dossier qui il y a des fortes probabilités, ça ressemble à telle personne qui reste à telle adresse, telle rue. Fait que oui, on est dans cette ère-là parce que ça existe, c'est faisable. Maintenant, je veux juste en rajouter un peu sur le feu. Qu'est-ce qui arrive avec les prochaines données qu'Hydro-Québec vont cumuler avec le thermostat intelligent ILO? Parce que ça va documenter les habitudes de vie des gens à la maison. Puis on peut en remettre encore. Est-ce que nos habitudes de consommation, de m'emmener, vont être vendues de la part de la SAQ à des compagnies à l'extérieur? C'est, autrement dit, des agences du gouvernement qui documentent de plus en plus comme qu'est-ce qu'on est comme citoyen et qu'ils en ont de l'information citoyenne, mais qu'il manque des lois et des règlements qui balisent l'utilisation de ces données-là.
Mais tu sais, tout à l'heure, on va parler d'obésité en deuxième heure d'émission avec un spécialiste parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, tu as 50% de plus de risque de développer, de réagir fortement à la COVID-19 si tu es en surpoids qu'autrement, que si tu as un poids normal. Donc, on aura un spécialiste là-dessus. Mais ça me fait penser, en t'écoutant, Steve Waterhouse, que tu manges un peu trop de fast-food. T'sais, on est capable de savoir maintenant, là, avec les données de géolocalisation, si tu vas chez McDo, si tu vas chez Burger King, si tu manges trop souvent. Les compagnies d'assurance pourraient utiliser ces informations-là aussi.
Définitivement, c'est eux autres les premiers qui sont concernés par ça parce qu'ils veulent toujours protéger les fonds qu'ils ont pour en donner, évidemment, éviter la fraude, mais donner pour le besoin réel. Mais on sait très bien, des fois, ils s'inventent des raisons pour ne pas rembourser, pour ne pas indemniser la personne, l'assurée. Puis, je te donne un autre exemple par rapport à ce que tu viens d'apporter, Isabelle. Il y a quelques années, ceux qui s'entraînent avec l'application MyFitnessPal, qui peut être lié avec un Fitbit, des choses comme ça, eux autres aussi, ils ont été victimes de fuites d'informations. Donc, tu as un autre set d'informations médical ou dans vraiment là, ce qui trait à la biologie d'une personne qui traîne en quelque part sur Internet. Puis là, tu peux le recouper avec qu'est-ce que potentiellement tu pourrais avoir, qu'est-ce que tu as de la RAMQ et d'autres. Fait que vois-tu, qu'est-ce que j'essaie d'apporter là, comme point, c'est qu'il y a déjà de l'information qui gravite autour. Fait que ceux et celles qui disent qu'ils n'ont rien à cacher puis qui veulent que le gouvernement y en donne puis y en donne, ça va à long terme créer une situation, puis c'est pour ça que j'ai appelé ça, là, c'est une boîte de Pandore, parce que quand ça commence, là, ça finit plus. La boule de neige va grossir tellement qu'on va se faire vraiment écraser autour de ça.
Oh, OK. On a Simon qui est avec nous. Simon, votre opinion là-dessus?
Je suis tout à fait contre. D'ailleurs, je vais à plusieurs aspects, dans le même sens que M. Waterhouse. Les compagnies, aujourd'hui, vont chercher à constituer des bases de données, mais vont acheter des bases de données et les croiser entre elles afin d'avoir l'information la plus précise possible, afin de éventuellement permettre d'identifier exactement les gens. Donc, on parlait de consommation tout à l'heure. Oui, on peut savoir qu'est-ce qu'on a mangé, quand pratiquement, mais c'est la même chose au niveau de la santé. Et donc, la santé, c'est un des aspects les plus personnels. Un enfant, une jeune fille de 14 ans peut se faire avorter sans même que ses parents soient avisés.
Ouais.
Mais de l'autre côté, la compagnie d'assurance, elle, va être au courant.
Oui, exact.
Mm-hmm. C'est dans des dérapes comme ça qu'on s'embarque, selon moi. Et je suis totalement réfractaire à cette idée-là.
Mais on nous dit, Simon, que c'est pour la recherche. C'est pour le bien commun. C'est pas pour l'utiliser contre nous. C'est ça qu'on nous dit. Là.
On a malheureusement au Québec, un historique d'entente avec le privé qui sont des ententes qui ne sont pas divulguées, qui sont en dehors de l'accès à l'information.
Mm-hmm.
Et malheureusement, souvent, elles ont été mal négociées. Et donc, je n'ai absolument aucune confiance que le gouvernement sera en mesure de dire en aucun temps, à aucun moment, vous ne pourrez vendre, propager, distribuer ces informations-là, soit à vos autres compagnies sœurs, à vos à la compagnie qui vous détient, etc. Et donc, ces informations-là vont commencer à se voyager
à se propager,
d'une entreprise à l'autre.
Ça prend des balises, c'est ça que vous nous dites, Simon. En même temps, je rappelle, c'est le ministre de l'Économie qui a comme lancé ce pavé dans la mare, en fait, qui a réagi en disant que c'était winner, que c'était une bonne idée. Ça aurait été le fun que le ministre de la Santé soit là-dedans aussi, pas trop loin. C'est quand même nos données de santé. Puis la RAMQ dépend du ministre de la Santé. En fait, c'est lui qui répond ça. Vous allez me dire, le ministre de la Santé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient de l'entreprise privée aussi. Donc, on a beaucoup d'économiques au gouvernement. Ça a du bon, mais des fois, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui a une vision pas forcément mercantile de toutes ces informations-là. On a Franck qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
On vous écoute là-dessus, votre opinion?
Moi, c'est très simple. En tant qu'ancien représentant pharmaceutique, je peux vous dire que les compagnies pharmaceutiques ont toute cette information-là déjà.
Déjà? On parle pour rien, oui. Franck. Êtes-vous sérieux? Ils ont déjà ça? Comment ça, ils ont déjà accès à ça?
Ils ont toute l'information. Ils savent exactement quel médecin prescrit quoi. Quelle région a tel problème de santé en majorité. Moi je sortais un produit pour telle ou telle maladie, puis je savais que je devais me focusser dans tel endroit. Voilà, tout simplement.
C'est-à-dire que ces informations-là, vous les aviez, vous, comme représentant sur la route, dans ce coin-là, mettons, à Laval, ils ont tendance à faire de l'asthme. Va donc te promener dans ce coin-là.
Oui. C'est encore plus précis que ça, là. C'est dans la région de Thetford Mines, il y avait des problèmes avec l'amiante.
Ouais.
Donc, ils ont eu des problèmes de cancer. Donc, les médecins vont être plus occupés pour tel cancer en particulier. Boum, on y va. Let's go.
Okay.
Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est complètement... Cette discussion-là, elle est complètement niaiseuse parce que la seule personne qui n'a pas l'information, c'est le gouvernement. Mais toutes les compagnies, toutes les pharmacies, toutes les compagnies pharmaceutiques ont toute cette information-là. C'est pour ça que moi,
visiblement, ils en veulent plus, Franck.
Ils en veulent toujours plus, c'est sûr. Mais moi, je veux dire, j'ai pas besoin de savoir la personne en particulier. J'ai juste besoin de savoir quel médecin prescrit tel produit en particulier ou quel médecin à une catégorie de patients. Est-ce qu'ils voient plus des patients diabétiques ou plus des patients qui ont des problèmes de cholestérol, etc., etc., parce que c'est ça qui se passe à la fin de la journée. Là. Et puis, est-ce qu'ils préfèrent mon produit ou est-ce qu'ils préfèrent le produit du compétiteur? Puis, je peux le savoir tout de suite. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, les compagnies d'assurance savent Puis, vous êtes au courant qu'on parlait tout à l'heure de famille, là, mais on est en train de parler des démarrés en ce moment, là, qui sont propriétaires d'une compagnie de fonds mutuels, Mackenzie, qui sont propriétaires de 3 compagnies d'assurance qui assurent les gens. Et donc, ils sont au courant de tous les médicaments qui sont en train de passer au Québec. On ne sait pas qu'ils font des regroupements, ces gens-là, là. Quand vous allez demander une assurance vie à une compagnie, pensez pas qu'ils ont ça dans leur système.
Ouais, toutes des bonnes.
La seule personne qui n'a pas l'information en ce moment, c'est le gouvernement du Québec, et ça pourrait nous aider. Moi, je pense que ça pourrait nous aider à améliorer notre santé et pour pouvoir voir dans quelle région il y a des gens qui ont des problèmes d'hypertension, de problèmes de cholestérol, puis peut-être d'arriver là avec. Dans les écoles, puis dire « OK, on va faire attention à la nutrition, on va faire attention à faire plus d'exercices dans ces quartiers-là. » Puis il y a d'autres quartiers pour qui la santé des gens est meilleure. Donc, on va essayer d'améliorer encore plus.
Mais donc, je vous dis, ça serait les pharmaceutiques qui devraient donner ces informations-là à la RAMQ ou la RAMQ devrait faire ses propres recoupements, là?
Bien, c'est clair. Ils ont déjà toute l'information. Ils savent déjà, en passant, Isabelle, la régie d'assurance maladie en ce moment, là, c'est combien de médicaments sont vendus dans chacune des régions, des codes postaux. C'est eux qui remboursent les médicaments dans les pharmacies. Donc, ils devraient savoir où est-ce qu'il y a des problèmes en particulier.
Merci. Merci beaucoup. On doit aller à la pause là-dessus. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données de santé personnelle, Danielle?
Bonjour, Isabelle.
Bonjour, Danielle.
Qu'il peut être intéressant d'utiliser ces données-là. Mm-hmm. Si c'est pour la recherche et si c'est une mine d'or, mais pourquoi ne pas en faire un avantage pour nos universités, développer ici, faire confiance à nos chercheurs, investir dans notre avenir, puis nous, garder le contrôle et récolter les retombées de ça? Pourquoi les vendre à des tiers sur lesquels on n'a aucun contrôle, puis il n'y a pas que les pharmaceutiques, on peut penser aux assureurs, aux employeurs. Mm-hmm. Plein d'entités ont intérêt à connaître ces données-là. Mais si vraiment c'est pour des fins de recherche, ben pourquoi ne pas s'organiser pour nous-mêmes en profiter?
Et à ce moment-là, vous diriez que le gouvernement doit négocier des tarifs avec le Big Pharma?
Non. Pourquoi ne pas faire bénéficier nos universités, nos chercheurs de ces données-là?
Merci beaucoup, Danielle. D'ailleurs, tu connais bien le milieu universitaire, Steve Waterhouse. On a abordé la question tout à l'heure un peu plus tôt avec Éric Parent de Eva Technologies. Il disait lui aussi que les universités, parfois, ont de la difficulté, on le sait, à avoir du financement pour des programmes, puis qu'il faut qu'elles se tournent vers le privé. Sinon, il n'y a pas de recherche possible. Steve?
Alors que ça devrait être possible pour eux de directement aller chercher cette information-là, parce que je crois beaucoup plus à l'éthique de travail des chercheurs locaux qui vont s'adonner à faire un travail qui va avoir un retour sur l'immédiat dans la collectivité, comme disait Mme Danielle, alors que les Big Pharma, eux autres, c'est pour le profit des actionnaires, puis ils vont répartir ça dans le monde, puis c'est nous qui vont être désavantagés, encore une fois.
Ouais, mais comment ça peut être fait, alors, dans les règles de l'art, là? Si on dit, OK, on est ouvert, on est rendu là, on va l'accepter. Quelles sont les balises qu'il faudrait mettre, Steve?
Bien, devant le fait que, pourquoi qu'on verrouille nos portes le soir? C'est parce qu'il y a eu de l'abus par le passé, puis il y a des parfums qui viennent voler du matériel chez nous. Fait que c'est la même affaire avec les données. Si on laisse, puis comme le deuxième intervenant disait, il est d'accord, puis les pharma ont déjà de l'information, mais ils ont travaillé pour l'avoir, ils ont fait des sondages, ils ont été collectés cette information-là. Parfait. Par contre, l'inverse, même le gouvernement, s'il le demande aux pharma ne voudra jamais donner ces informations-là, parce que ça les a coûté X à les acquérir. Alors qu'ici, c'est tout un échange de bonne foi. Alors, il faut baliser ça. Je regarde présentement le guide d'exercice du Collège des médecins et à chaque fois qu'il y a une entité qui essaie d'avoir accès à une partie ou au dossier médical de quelqu'un, il y a un paquet de règlements et lois qui est en fonction pour être capable justement d'arrêter les abus de collecte d'informations que quelqu'un n'a pas besoin. Donc, c'est là qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait une réglementation des lois et des conséquences que s'il y a de l'abus, il faut que ça soit arrêté parce que sinon, ça va juste être toujours sorti. Puis je compare souvent au minerai exploité dans le Nord, alors qu'on a donné notre minerai, alors si on aurait pu en profiter puis avoir encore là une meilleure retombée pour la collectivité.
Tu veux-tu qu'on parle des forêts aussi pendant qu'on y est?
Ben voyons, c'est la même affaire, là. Mmh. C'est comme ça. Il faut arrêter de donner notre. Ça, je le qualifie en comparaison avec les minerais. C'est de la matière première. Ça devient de la matière à exploiter, puis il faut pour travailler dans le futur.
Combien ça vaut, ça, justement? Es-tu capable de mettre un prix là-dessus? Ça vaut combien un dossier patient, là?
Ça varie beaucoup parce que il y en a qui vont dire des cartes de crédit, ça vaut quelques cents, 10 cents, 25 cents, mm. alors qu'un dossier complet d'une personne avec toutes ses informations personnelles, médicales, etc., ça peut valoir des centaines, des milliers de dollars. Ça dépend toujours comment ce qui est complet le dossier, mais j'ai pour mon dire, et on observe de plus en plus cette tendance-là dans les 10 dernières années, plus tu as d'informations qui fuient, plus tu es capable là, de bâtir cette information-là, qu'elle soit alléchante et que ça devient un produit commerciable beaucoup plus attrayant. Fait que c'est certain, si tu vends juste une liste de noms avec des numéros de téléphone, ben c'est ça veut dire que tu vends un bottin de téléphone, ça vaut pas cher. Mais si tu vends avec tous les détails de la personne, à chaque adresse et à chaque numéro de téléphone qui y figure, oups, là, ça commence à être intéressant. Alors, c'est pour, encore une fois, souvent, ça va aider, ça va faciliter les gens du marketing pour faire de la vente, de la sollicitation de produits. Mais en même temps, ben, comme a dit un autre intervenant, je crois que c'est Simon tantôt, ben, pour le vol d'identité, c'est certain que ça, c'est l'or en bas pour le réseau criminel pour être capable, encore une fois, de commettre des fautes.
Mm-hmm. Et là, ce qui ressort beaucoup de nos auditeurs aussi, c'est le lien qui va vite arriver avec les compagnies d'assurance. Tu vois, il y a Guy qui me raconte qu'aujourd'hui, il est comme pris avec sa même compagnie d'assurance vie parce qu'il n'y en a plus aucune autre qui veut l'assurer parce que elles ont su que génétiquement, son père avait fait du diabète de type 2. Puis là, ben lui, il se trouve à payer un peu pour ça. Donc, tu comprends, c'est qu'à un moment donné, on ne sera plus assuré. Ça vous... ben, on va payer règles. Pareil, on n'aura plus le choix, on va nous dire ben, c'est ça. Ou, entre aujourd'hui et il y a 2 ans, là, les compagnies d'assurance ont presque doublé leurs tarifs, leurs primes. Alors, puis tu ne peux rien faire. Rien. C'est fini. Ben, attends, c'est ça. C'est ça le prix. Il faut que tu payes.
Ben, il faut en discuter pour être capable d'enrayer ces phénomènes-là, puis à ce moment-là, faire valoir nos droits, puis c'est pas en restant silencieux que ça va s'améliorer.
Voilà pourquoi il faut poser des questions, et c'est transparence, 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 le mot d'ordre. Merci beaucoup, Steve Waterhouse.
Bonne fin de journée, Isabelle.
Steve est expert en cybersécurité. Après les nouvelles, on parle de sport scolaire. À tout de suite.